Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Des drapeaux ukrainiens sur les marches du Congrès à Washington. Après des mois de bras de fer entre démocrates et républicains, un nouveau plan d'aide à l'Ukraine a été adopté samedi.
311 votes pour, 112 contre. Le projet est adopté.
Le texte, qui doit encore recevoir l'approbation du Sénat, débloque une aide de 61 milliards de dollars pour épauler et armer Kiev face à la Russie. Le président Zelensky salue un geste qui va sauver, dit-il, des milliers de vies.
Il s'agit d'un ensemble de mesures très importantes qui seront ressenties par nos soldats, sur la ligne de front, par nos villes et villages qui souffrent de la terreur russe.
Sur le front à l'est de l'Ukraine, la situation des troupes de Kiev s'est détériorée ces dernières semaines. Les hommes sont fatigués, ils attendent en vain la relève et des munitions. L'annonce du déblocage de l'aide américaine peine à leur redonner le moral.
Si on avait reçu cette aide plus tôt, nous n'aurions pas perdu autant de terrain. On aurait même pu en reprendre.
Je ne peux pas dire que je suis plein d'optimisme, mais au moins nous aurons des obus à tirer.
L'armée russe, elle, ne manque pas d'armes. Elle a repris plusieurs villages dans le Donbass et le porte-parole du Kremlin l'affirmait encore ce matin, la Russie ne compte pas s'arrêter là.
L'aide américaine et les armes qui seront livrées ne pourront pas freiner notre offensive. L'Ukraine va subir encore plus de pertes humaines.
Alors, les livraisons d'armes américaines arriveront-elles trop tard ou au contraire à point nommé pour résister aux attaques de l'armée de Moscou? 2 ans après le début de l'invasion russe, le soutien de Washington permettra-t-il d'empêcher la victoire de Vladimir Poutine en Ukraine?
3 invités pour ce débat. Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, spécialiste de l'histoire militaire. Votre dernier ouvrage s'affiche, il est paru chez Perrin. Vous estimez, Michel Goya, que c'est la Russie qui actuellement a l'avantage sur le terrain militaire. L'Ukraine, selon vous, est dans une posture défensive. L'aide américaine va permettre de rééquilibrer le rapport de force. À côté de vous, Gallagher Fenwick, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste des questions internationales à LCI. Vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions du Rocher consacré à Volodymyr Zelensky. Selon vous, le plan d'aide américain va permettre d'empêcher la capitulation de l'Ukraine, mais ce plan arrive trop tardivement pour permettre à l'Ukraine de reconquérir les territoires perdus. Et à côté de vous, Christine Dugoin-Clément, bonsoir, chercheuse à la chaire RISC Paris-Sorbonne Business School. Votre dernier ouvrage est paru chez Vapresse, on le voit au moment où je vous parle. Selon vous, si on commence à se dire qu'il est trop tard pour l'Ukraine, on abandonne tout. Il faut aider tous les Ukrainiens pour empêcher la Russie de s'étendre inexorablement. Et on démarre ce débat avec l'homme du jour.
Exactement. Mike Johnson, hein, le speaker républicain de la Chambre des représentants, c'est un peu l'équivalent de nos présidents de groupes politiques à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours encore, il était farouchement contre le vote de ces nouveaux crédits à l'Ukraine, avant une volte-face spectaculaire. Pour quelles raisons? Eh bien, ça reste flou. Une chose est sûre, il a rendu visite à Donald Trump, qui a visiblement levé son veto. Et raison plus personnelle peut-être, il a un fils qui vient de s'engager dans l'armée. Mike Johnson a eu cette phrase: « Nous préférons envoyer des balles dans le conflit à l'étranger plutôt que d'envoyer nos propres garçons, nos troupes. » Certains républicains d'ailleurs veulent aujourd'hui sa peau politique. Gallagher Fenwick, c'est lui qui a fait pencher la balance incontestablement?
Oui, tout simplement parce que c'est lui, en tant que chef d'orchestre de la Chambre, qui a la possibilité de soumettre des amendements au vote. S'il ne fait pas, on ne vote pas dessus. Maintenant, il faut comprendre que ce moment, il y a 2 facteurs qui le font basculer, Dieu et la CIA. Il ne faut pas oublier que la religion joue un rôle véritablement prépondérant dans l'espace public et politique aux États-Unis. C'est un chrétien fervent et donc ses collègues décrivent cette espèce de moment mystique où il prie, et donc dans la chaleur de la présence de son créateur, eh bien, il lui est suggéré effectivement de saucissonner le package, vous savez, parce qu'il y a environ 100 millions de dollars en jeu, donc faire voter séparément ses collègues sur l'Ukraine, l'Indo-Pacifique, Israël et la CIA, parce qu'il a accès à des informations classifiées où on lui explique 2 choses. D'abord, la situation terrible sur le terrain et les conséquences terribles, pas que pour les Ukrainiens, mais pour les Américains en cas de défaite.
Mais la CIA qui a évoqué il y a quelques temps, il y a quelques semaines ou quelques jours, le fait que la défaite de l'Ukraine serait en 2024, hein, c'est ça?
Alors, pas qu'elle serait possible
sans aide.
Mais ce qu'on n'écoute pas et ce à quoi on devrait prêtez attention, c'est la deuxième partie de cette phrase. Parce que dit Bill Burns, le patron, dans cette même phrase? Il dit il ne faut pas, enfin, il faut empêcher que Vladimir Poutine arrive à la table des négociations en position de force. Et je pense que c'est plutôt à ça qu'il pense, Bill Burns, en l'occurrence.
Alors, revenons aux 61 milliards de dollars d'aide, Michel Goya. On va voir la répartition de cette somme. Et on va voir que tout ne va pas directement à l'Ukraine. Une partie va aussi aux États-Unis pour les usines d'armement.
Oui, alors il faut bien comprendre déjà l'importance quand même de tout ça. Hein. Oui. C'est comme si on avait demandé à nos députés, à nous, de voter une aide de 10 milliards d'euros pour l'ensemble des pays que l'on soutient dans le monde. Donc, je pense qu'il y aurait eu des débats aussi, que ça aurait été un peu compliqué peut-être à faire passer. Dans ces presque 100 milliards, 90 et quelques, il y en a 60 qui sont consacrés à la zone en réalité. C'est la zone Ukraine, c'est le front ukrainien, la zone d'intérêt. Donc il y a une partie qui va directement, qui est destinée aux forces ukrainiennes, c'est des équipements, c'est de la formation. Il y a une partie sous forme de prêt qui va notamment à l'aide à la restauration des infrastructures, en particulier énergétiques, mais il y a des choses qui vont aussi pour les pays voisins, et il y a des choses aussi qui vont direct, qui ne dépasseront pas la frontière des États-Unis et qui vont directement dans l'industrie de défense américaine, notamment pour recompléter les stocks des munitions qui, elles, partiront en Ukraine. Donc c'est tout un package, mais qui, voilà, directement ou indirectement, va quand même servir l'Ukraine.
Et Christine Dugoin-Clément, le plan autorise également la vente d'actifs russes gelés, ce qui voudrait dire que de l'argent russe servirait à tuer des soldats russes.
Alors, ça a été un des enjeux, c'est qu'il y a une possibilité...
Enfin, si on raccourcit un peu.
On coupe beaucoup dans les rages. Il y a une capacité de pouvoir vendre des actifs russes au bénéfice du trésor américain. Avec un fléchage particulier pour l'aide ukrainienne, mais encore une fois, l'aide ukrainienne, elle est divisée en beaucoup de choses. Il y a tout un volet aussi qui doit venir pour aider le gouvernement à assurer tout ce qui sont ses missions de base, donc ça va être aussi bien le paiement des salaires, ou tout ce genre de choses. Donc il y a toute cette approche-là, et c'est quelque chose qui était demandé depuis un certain temps par les pro-ukrainiens notamment. Et puis peut-être un point aussi qui est assez intéressant, c'est sur ce qui a été évoqué par Michel Goya, c'est-à-dire le fait qu'on va participer à re-remplir un petit peu les stocks américains de matériel et à réalimenter le complexe militaro-industriel. Ça permet aussi de couper un petit peu l'herbe sous le pied à certains détracteurs qui expliquaient qu'il y avait des détournements massifs qui étaient faits, des fonds qui seraient donnés directement par les États-Unis à l'Ukraine.
Détournés en Ukraine.
En Ukraine, par des pratiques de corruption, parce que ça permet justement de dire non, ils vont récupérer du matériel, mais une partie des fonds reste en plus des différents systèmes de contrôle qui ont été mis en place et renforcés.
Gallagher Fenwick, très concrètement, est-ce que par exemple cet argent peut permettre de créer, bâtir une sorte de dôme de fer contre les missiles russes? On l'a vu, un peu l'équivalent de Sky Israel aujourd'hui, qu'elle a activé face aux missiles iraniens, puisqu'aujourd'hui c'est quand même la menace russe principalement, elle est aérienne.
Alors, pour répondre le plus précisément possible à votre question, non, parce que le principe du dôme de fer, c'est une protection quasiment parfaite, et d'ailleurs, elle est multicouche, même en Israël. Il y a trois systèmes différents, dôme de fer pour les roquettes, de plus courte portée, ensuite il y a la fronde de David, et il y a les missiles Arrow.
Et elle a pris plusieurs années
le
aussi.
Le rêve, évidemment, des Ukrainiens, ce serait d'avoir la couverture totale des cieux ukrainiens, ça nécessiterait des quantités de matériel énorme. Juste un système Patriot à lui tout seul, c'est 1,1 milliard de dollars. Chaque missile tiré, c'est 4 millions de dollars. Donc je vous laisse faire le calcul pour couvrir 600 000 km². Voilà. En revanche, oui, ça va permettre une meilleure défense de grands centres urbains. Aujourd'hui même, les Russes viennent de faire tomber la tour de la télévision ukrainienne à Kharkiv, la deuxième ville du pays, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Très concrètement, pourquoi je dis que cette aide, elle est arrivée très tardivement? Parce qu'il faut regarder ce que son absence a coûté aux Ukrainiens. Elle a évidemment coûté des vies, elle a coûté beaucoup d'infrastructures, et donc cette aide, elle va améliorer la protection de ces infrastructures, mais ça ne permettra pas d'avoir une couverture parfaite de l'ensemble du territoire.
Il y a urgence, on va regarder cette carte du ministère français de la Défense, vous allez dire, qui montre la poussée russe sur le front Est. Elle est toute récente, elle a 3 jours à peine, cette carte. Et je vous cite le commentaire du ministère de la Défense, il est éloquent. La situation dans le secteur Est apparaît critique pour les forces ukrainiennes. La progression des forces armées russe est lente, mais continue. Michel Goya, quand on voit ça, on se dit en effet que cet argent, il faut qu'il aille très vite sur le terrain, mais ça peut prendre beaucoup de temps, en réalité.
Alors effectivement, il y a une pression, la stratégie russe, c'est une stratégie de pression actuellement, que ce soit par les airs ou que ce soit sur terre, donc on attaque continuellement, ça n'avance pas beaucoup sur terre. Depuis le début du mois de janvier, les Russes ont reconquis l'équivalent des deux tiers du territoire de la principauté de l'Andorre. Donc c'est vraiment du grignotage, mais c'est pas forcément le premier, c'est de faire de la pression et pour faire éventuellement craquer les systèmes de défense, qu'ils soient au sol ou en l'air ukrainien.
Un chiffre pour un obus tiré par l'Ukraine, 5 sont tirés par la Russie.
Ben oui, non, mais dans ce style de guerre au sol, de guerre de position, de guerre de tranchée, le nerf de cette guerre, ce sont les obus d'artillerie. Si vous n'avez pas d'obus d'artillerie, vous faites rien. Et là, ce qui peut se passer effectivement avec cette aide, c'est que très rapidement, puisque au moins le mérite d'avoir attendu aussi longtemps, c'est que ça a permis aux militaires américains de préparer logistiquement cette manœuvre, c'est d'envoyer tout de suite ce qui est le plus urgent, c'est-à-dire des munitions, et notamment des obus, notamment des missiles anti-aériens aussi, de les envoyer le plus vite possible. Ça, c'est absorbé tout de suite, donc ça peut avoir un effet dans les semaines qui viennent, effectivement. Puis après on voit le reste. Et ça va pas changer le rapport de force, mais ça peut équilibrer, en tout cas, ce même rapport de force.
C'est d'autant plus important que les pays du G7 font état d'inquiétude par rapport à des aides chinoises à la Russie. Niveau de l'armement, de quoi s'agit-il?
Alors oui, en fait, il y a plusieurs choses, parce que on l'a dit, il y a une guerre d'artillerie donc qui est particulièrement coûteuse en munitions. Il y avait effectivement des stocks de l'époque soviétique en Russie qui ne sont pas forcément inépuisables, et il y a un soutien en termes de fourniture de matériel militaire divers. Alors, au niveau de la Chine, de ce qu'on appelle le groupe des CRIC maintenant, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée, Corée du Nord évidemment, qui participent à fournir du matériel.
Corée du Nord.
Les drones qui ont défrayé la chronique, avec notamment les Shahed iraniens, qui ont d'ailleurs des propres lignes de production conjointes maintenant, qui sont installées en Russie depuis plusieurs mois, donc qui permet d'avoir un approvisionnement qui est plus rapide, du matériel comme des munitions par exemple, et tout ce genre de choses. Ce qui permet notamment d'arriver à avoir de plus en plus de frappes dans la profondeur du territoire ukrainien, d'aller viser des infrastructures critiques, par exemple énergétiques. Là aussi, on va avoir un coût induit qui sera beaucoup plus compliqué, et on va avoir une capacité de coordination des forces qui sera de plus en plus compliquée quand on va aller sur ce genre d'opération. Peut-être juste néanmoins un point. Effectivement, il y a une avancée et une pression longue, mais qui reste modérée, mais malgré tout régulière. Ce qui est assez intéressant aussi d'observer, c'est ce qui s'est passé en mer Noire, dont on parle assez peu, où finalement l'Ukraine a réussi à bloquer dans une certaine mesure la flotte russe de mer Noire, c'est-à-dire que les bateaux sortent beaucoup moins et sont dans des ports qui sont plus éloignés pour ne pas être touchés, notamment par des systèmes drones et puis missiles ukrainiens. Et comme vous êtes sur une arène qui est relativement fermée, quand vous parlez de la mer Noire par le détroit du Bosphore, c'est assez compliqué de venir remplacer les navires que vous avez coulés. Donc, par contre, ce qui reste, c'est toute la partie des sous-marins. Et quand vous avez moins de capacité navale, vous avez toujours la capacité de tirer depuis des sous-marins, mais vous avez l'enjeu, vous avez la tentation que l'on voit de renforcer tout ce qui va être frappe aérienne.
Michel Goya, on sait que les usines d'armement russes, elles tournent à plein, c'est très important dans la stratégie militaire. Est-ce que cette aide de 61 milliards va permettre aux Ukrainiens d'avoir des missiles longue portée pour viser ces usines d'armement, par exemple, sur le sol russe?
Alors, il y a deux aspects. Non,
parce qu'on se dit, c'est le nerf de la guerre, c'est aussi là que ça se passe.
Oui, bien sûr. Alors, déjà, il ne faut pas exagérer forcément cette mobilisation de la Russie. C'est une demi-mobilisation. Demi-mobilisation humaine, demi-mobilisation économique. On a les dépenses russes, c'est 6 à 7% du produit intérieur brut. Ce n'est pas une économie de guerre, encore, véritablement. L'Ukraine, oui, ils dépensent un quart de
leur ressource. Donc, ils peuvent l'amplifier, les Russes.
Ils ont encore de la marge, effectivement. Mais avec éventuellement des risques politiques. Mais sur cette question-là, il y a un aspect purement technique. D'abord, il faut ces usines. La Russie, c'est grand. Il faut des missiles qui frappent loin. Les Ukrainiens disposent on constitue leur propre force de frappe. Mais s'ils veulent utiliser des engins occidentaux, il faut demander l'autorisation. Pour l'instant, cette autorisation leur est interdite. C'est le deuxième aspect qui est purement politique. Maintenant.
Ça peut changer.
C'est l'objet d'un débat.
Alors, en attendant que le débat soit résolu, on va évoquer avec Anna et avec vous trois, évidemment, les Ukrainiens qui manquent de munitions, mais aussi d'hommes. semble-t-il, sur le terrain.
Exactement, ils sont 500 000 hein, à peu près, les soldats ukrainiens, et selon l'ancien général ukrainien des armées, il en faudrait au moins le double pour faire face à l'avancée de l'armée russe, et aussi tout simplement pour permettre aux militaires qui sont épuisés de faire une pause. Certains ne sont toujours pas rentrés chez eux depuis plus d'un an, mais voilà, deux ans après la guerre, eh bien, Volodymyr Zelensky a du mal à recruter. Il a donc dû prendre des mesures pour muscler ses rangs. Début avril, l'âge de la mobilisation est passé de 27 à 25 ans. Et plus récemment, une nouvelle loi qui est très controversée a été adoptée par le Parlement. Elle permet aux personnes qui ont été condamnées avec sursis d'être mobilisées. Certains prisonniers peuvent aussi être mobilisés en échange d'une libération conditionnelle. Et je rappelle que la Russie le faisait déjà depuis l'été 2022. Mais surtout, la clause qui permet aux soldats ukrainiens de quitter l'armée après trois ans de mobilisation a été supprimée dans cette nouvelle loi. Pas de répit en vue donc pour les soldats du front. Et tout cela alors que la Russie, elle, vient de lancer sa campagne de conscription militaire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. Des jeunes qui techniquement peuvent se retrouver sur le terrain en Ukraine d'ici un an et qui pourraient donc venir s'ajouter auprès de 600 000 Russes qui sont actuellement présents en Ukraine, selon Vladimir Poutine. Gallagher Fenwick, est-ce que le nerf de la guerre, en tout cas la clé de ce conflit, ça va être la capacité à mobiliser des hommes?
Et c'est la question qui est la plus épineuse. L'Ukraine aujourd'hui manque de deux choses, de munitions et d'hommes et de femmes qui sont prêts à aller à se battre. Vous mettez à la place de ces personnes qui sont potentiellement mobilisables avant ce vote. Elles connaissent très bien la situation sur le front et le manque de munitions. Pourquoi aller dans les tranchées si vous n'avez pas de quoi tirer? Donc ça, ça va être peut-être l'un des éléments qui va pouvoir débloquer cette situation très épineuse. Les textes dont vous avez fait mention, qui sont passés effectivement devant la Rada, le Parlement ukrainien, sont passés en première lecture, n'ont pas encore été tous adoptés. Et rappelez-vous que ce sujet de la mobilisation ultra sensible, ce sont des questions de vie et de mort, de justice et d'injustice, pourquoi lui il est mobilisé, pourquoi pas moi, ou vice-versa, avait fait l'objet d'un contentieux sévère entre le président Zelensky et l'ancien chef d'état-major des armées Zaloujny.
En janvier, oui.
Je pense, si vous voulez, que en anglais on dit « there's no such thing as a free lunch ». Quand on signe 61 milliards, on fait des demandes derrière. Donc il y a des contreparties et je pense que les Américains ont sans doute fait passer le message que ce serait bien que les Ukrainiens avancent sur la question de la mobilisation. Il y a d'autres contreparties, à mon avis, qui ont été demandées. Peut-être qu'on envisage quelque part à un moment de la négociation.
Donc, du compromis et de la négociation.
Ouais, d'où la question, Michel Goya, qui nous brûle tous les lèvres. Est-ce qu'elle n'est pas trop tardive, cette aide? Est-ce qu'en effet, elle ne permettra pas plus de se défendre pour les Ukrainiens que d'être offensif?
Bon, d'abord, oui, il y a une crise d'équipement, une crise des munitions, mais il y a une crise humaine, de mobilisation humaine, qu'il faut résoudre aussi. Il faut réorganiser également cette armée ukrainienne, c'est en cours. Et tout ça pour au moins permettre de résister. Effectivement, cette aide fournie, alors c'est tardif, hein, donc ça induit des sentiments un peu ambivalents. C'est d'un côté, oui, ça redonne l'espoir, parce que c'est quand même beaucoup, et que ça va permettre au moins de combattre pendant toute l'année 2024, et en même temps, ça laisse un doute dans l'esprit des Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils se disent que l'aide américaine, elle n'est pas si fiable que ça, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, et on ne sait pas très bien ce qui va se passer à partir de la fin de l'année. Et donc, quand on est dans cette situation, je me mets à la place un peu des états-majors ukrainiens, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, l'offensive ukrainienne qu'on a lancée l'été, on aurait su que l'aide allait s'arrêter ensuite, on l'aurait peut-être pas lancée, parce qu'on a cramé tout un tas d'obus, notamment de munitions dans cette offensive qui a échoué. Et donc, ça laisse les Ukrainiens dans une situation un peu de très grande incertitude, on va le dire comme ça.
Alors, pour aider l'Ukraine, bien, l'Europe se réarme, la France notamment. Écoutez Emmanuel Macron qui a donc lancé la construction d'une usine de poudre en Dordogne. Hein, c'était le 11 avril dernier.
Nous ne pouvons pas lâcher l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est à 1500 km d'ici. C'est-à-dire, c'est notre propre sécurité. Grâce à cette remobilisation et cet investissement, sur ce qui était devenu une friche, on va refaire une emprise industrielle et ici refaire des poudres. Donc Bergerac est pour moi l'image de cette reconquête industrielle et de cette souveraineté militaire que nous voulons pour nous-mêmes et pour l'Europe.
Christine Dugoin-Clément, certes, reconquête industrielle, mais cette usine, elle ne sera pas prête avant l'année prochaine. Même question qu'à Michel Goya, est-ce que ce n'est pas trop tard?
C'est bien le problème. C'est à partir du moment où vous relancez un système industriel et vous le recréez avant qu'il soit opérationnel et non seulement opérationnel, mais qu'il atteigne sa pleine puissance et capacité de production, vous allez avoir un temps qui pourra être critique, puisque là, on a besoin d'avoir un maintien du soutien aux Ukrainiens si on veut rentrer dans cette résistance qui a été entamée. Les Ukrainiens ont eux-mêmes créé l'équivalent de ce qu'on avait appelé la ligne Sourovikine, c'est-à-dire des tranchées et des renforcements pour limiter les avancées russes. C'est bien qu'on ait aussi dans cette conscience qu'on a une poussée qui est très forte et qu'on est plus dans la défense que dans du regain territorial dans l'immédiat. Ça, évidemment, on l'a. Et ça pose un point qui est l'enjeu d'arriver à avoir de la coproduction qui soit directement mise en place sur le terrain ukrainien, ce qui permettrait déjà d'avoir un gain de temps par rapport à tout
les
à
usines
toute la logistique
sur place,
directement.
Là-bas.
Oui,
les
ce qui...
usines allemandes, notamment.
Qui... Alors, il y a les usines allemandes, c'est un des points qui était mis en lumière dans l'accord bilatéral qui a été signé avec Paris, de lancer ces principes de coproduction, sachant que l'Ukraine elle-même a un CMI, ça a été dit, un complexe militaro-industriel, excusez-moi, qui est monté en puissance et qu'ils ont par ailleurs développé, notamment en termes de drones, des industries qui sont assez spécialisées. On pourrait penser par exemple aux Magura 5 qui ont été notamment beaucoup utilisées et par exemple en mer Noire. Et c'est un véritable enjeu. Oui.
Gallagher Fenwick, il est possible que ce soit la dernière enveloppe américaine, ce qui en rajoute dans l'anxiété des Ukrainiens.
J'en suis sûr. Vous en êtes sûr. Si vous regardez le temps de gestation pour faire voter cette enveloppe, vous êtes à 5-6 mois, vous prenez la date d'aujourd'hui ou de samedi dernier, vous ajoutez 5-6 mois, vous arrivez à l'élection présidentielle. D'ici là, il faut que déjà Mike Johnson réussisse à survivre à ce vote.
Le speaker de la Chambre des représentants.
Le président de la Chambre, effectivement. Quoi. Le speaker, quand vous vous souvenez du sort de son prédécesseur et les Républicains qui s'opposaient, certains ont déjà soumis, commencé à récupérer des votes pour le faire tomber. Donc ça va tanguer à droite de l'échiquier politique.
Gallagher Fenwick, juste pendant la Suisse, organise une conférence pour la paix en juin. Du coup, on se demande, est-ce que l'aide américaine, elle doit éviter à Kiev de devoir négocier en position de trop grande faiblesse? Est-ce que ça peut être ça, l'un des objectifs, finalement, de cette aide?
C'est exactement cela. Éviter la capitulation et, dans la perspective d'une négociation, débarquer, s'asseoir à la table en position de force et non pas de faiblesse.
Donc Michel Goyen, on parle aujourd'hui de négociation, alors qu'avant, il y a quelques mois, c'était un mot tabou.
Oui, on en parlera encore longtemps, parce que je pense que rien ne sortira de cette conférence en Suisse. Je vous donne rendez-vous en 2025.
Elle peut amorcer quelque chose, tout de même. Non, pourquoi vous n'y croyez pas?
J'ai l'expérience historique, on va dire.
Donc la guerre va...
Va durer. Tout semble se dessiner pour quelque chose qui... pour une décision, allez, en 2025.
Une décision.
Une décision au sens où négociation, une victoire, ce qui revient un peu au même d'ailleurs. Une victoire, c'est quand il y en a. Ou une négociation, c'est quand il y en a un qui dit OK, j'arrête. Et que l'autre dit bon, OK, ça suffit aussi.
Merci à tous les trois. Oui, mais oui, moi, on n'a plus le temps. Je suis navrée, Christine Dugoin-Clément. Mais merci en tout cas d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour autour de cette aide, trop tard ou pas.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.